Bien, merci et bonsoir. Et, alors, pour introduire une brève présentation de cet ouvrage, de la raison pour laquelle il m'a semblé important de le faire. Bien sûr, il y a plusieurs raisons, toujours. Il y a peut-être une synthèse à un moment donné qu'on peut avoir envie de faire entre plusieurs terrains différents, que ce soit différent par les lieux, l'Amérique latine et l'Afrique, ou par les terrains, ceux de la fête et des rituels d'un côté, et ceux de la migration, des déplacements et des confinements dans l'extraterritorialité d'un autre côté. Bien sûr, j'ai essayé de regrouper tout ça, mais il y avait aussi une volonté au départ de tourner un peu la page de plusieurs décennies de recherche du côté de l'anthropologie et des sciences sociales sur ce qu'on appelle les constructions identitaires, l'identité et finalement ce que j'ai appelé ici le piège identitaire, ou en tout cas l'identité devient un piège à partir du moment où l'on s'y enferme, ce qui vaut pour les chercheurs en sciences sociales, mais ce qui vaut aussi bien évidemment pour les sociétés, et c'est là où il me semble que le propos devient intéressant. Et puis aussi le propos, plus avant encore, plus ambitieux encore, serait de donner quelques repères aux anthropologues ou à l'anthropologie pour saisir cette dimension cosmopolite de l'existence qui caractérise la mondialisation. Alors c'est cela que je voudrais préciser un petit peu là maintenant, et puis je déboucherai sur cette affaire du piège identitaire qui est dans l'annonce de la soirée. Alors ce que je défends là dans cet ouvrage, c'est une espèce de conception qu'on pourrait dire du cosmopolitisme ordinaire. Les cosmopolites sont ceux qui font l'expérience de la concrétude du monde, de sa rugosité. Alors, voilà, ça c'est la thèse. Et le contexte, si vous voulez. On associe généralement le mot cosmopolitisme à un mode de vie globalisé, le monde des experts, des leaders de la politique du monde, des créateurs d'images qui ont le monde comme décor, ou le monde comme horizon de leur vie, de leur projet. Ce sont les plus parfaits sujets globaux, pour reprendre un terme de Jean-François Bayard. Ils sont marqués par la fluidité, ils circulent très vite. Mais en réalité, ceux-là vivent dans une bulle globale, et d'une capitale à l'autre, ne changent jamais de demeure. D'avion en môle, en salle de congrès, ce serait plutôt une classe cosmopolite, si l'on le dit à la manière de Jean-François Bayard, donc comme je viens de le signaler, où il parle des sujets globaux, mais aussi par exemple à la manière du philosophe Giorgio Agamben, qui nous disait il y a quelques années, finalement il n'y a plus qu'une seule classe au monde qui se représente comme classe du monde, c'est la petite bourgeoisie planétaire, et tous les autres ne se représentent pas comme classe dans le monde. Ce que dit aussi d'une certaine façon Zygmunt Bauman quand il parle de la grande stratification sociale mondiale entre les globaux et les locaux, les globaux qui circulent partout, qui sont partout chez eux, et les locaux qui ont un mal fou à se déplacer, qui sont empêtrés dans la dureté, ou ce que j'appelle là la rugosité du monde. Alors, dans le terme cosmopolitisme, il y a aussi tous ceux qui s'y reconnaissent éventuellement en voulant être citoyens du monde. Mais pour être citoyen du monde, il faudrait qu'un État du monde existe, un État avec un grand E, pour être citoyen d'un État. Donc on est plutôt dans une projection politique. On est dans de la cosmopolitique, on n'est pas exactement dans du cosmopolitisme. De la même façon, ou je veux dire dans la même critique, je mettrai un auteur comme Ulrich Beck, qui a beaucoup écrit sur le cosmopolitisme, et qui considèrent qu'être cosmopolite, c'est avoir une conscience cosmopolite. Et lui se réfère à tout ce qui est assez connu, pour tous les gens qui connaissent un peu les travaux d'Ulrich Beck, à ce qu'il a appelé la société du risque, la société du risque planétaire. C'est-à-dire, Beck se réfère à une perception commune d'un risque commun qui existerait à l'échelle planétaire. Il y aurait donc une identification cosmopolite. Alors là, à ce moment-là, on serait, si vous voulez, dans quelque chose qui serait une identité cosmopolite, avec quelque chose qui se passe quelque part, mais dont nous voyons tous des images et des commentaires partout. Donc c'est la société du risque, que ce soit la grippe aviaire, ou que ce soit le 11 septembre, dont nous nous souvenons tous partout, et pour ceux qui circulent peuvent en parler avec des amis ou des connaissances qui se trouvent aux États-Unis ou en Allemagne, et tous disent « Et toi, tu faisais quoi le 11 septembre quand tu as appris que… » etc. etc. Donc nous avons tous vu au même moment le 11 septembre, et dans ce moment-là, il y avait une identification où nous avons partagé quelque chose, où quelque chose a fait symbole. Et donc pour Ulrich Beck, c'est aussi le cas avec les grandes épidémies et les grandes peurs qui existent à l'échelle planétaire. Alors pourtant, à mon avis, cela ne décrit pas exactement la condition cosmopolite. Par condition, et donc ni par identité, ni par classe, par condition, je décris tout simplement une expérience de partage d'un contexte à un moment donné. C'est une approche très situationnelle, hein, qui se situe dans une anthropologie à la fois situationnelle et globale, si vous voulez. Qu'est-ce qui est partagé à un moment donné, et donc une expérience du partage du monde, aussi inégalitaire et violent soit ce partage et cette expérience. C'est pourquoi j'ai repris dans cet ouvrage, j'ai repris mes enquêtes passées et en cours, et j'ai voulu fonder donc la réflexion sur l'exemple de personnes en déplacement qui font donc l'expérience inégalitaire ou violente de ce partage du monde, une expérience qui se manifeste dans le déplacement, on quitte un lieu et on va vers d'autres lieux, donc dans l'expérience de la frontière et dans l'expérience des autres, une expérience qui n'est pas forcément désirée, une expérience qui n'est pas projetée comme étant un bel avenir, mais étant éventuellement une nécessité absolue, un besoin, tout ce qu'on voudra pour dire que bon, on est dans des déplacements dont certains pourront dire que ce sont des déplacements forcés, donc d'autres que ce sont des migrations volontaires, etc. Le sujet, on pourra y revenir, le sujet est assez complexe, et lorsqu'on travaille avec les migrants et les réfugiés, la casuistique comme ça de la cause d'un déplacement est toujours évidemment complexe. Et on n'a pas. Enfin, voilà, il est difficile de choisir, hein, quand on connaît les personnes qui sont en migration, de choisir, de décider qu'une migration a été parfaitement volontaire ou au contraire qu'elle a été entièrement et violemment forcée. Donc. Je reviens à cette idée de l'expérience, de la condition cosmopolite comme expérience de partage du monde aussi inégalitaire et violent soit ce moment, ce qui conduit donc à une réflexion sur les situations de frontières, et donc j'associe l'analyse sur les frontières à l'analyse sur ce qui fait la condition cosmopolite, et enfin la critique de ce que j'appelle donc le piège identitaire. Alors, dans l'ouvrage, je consacre un chapitre à essayer de décrire quelques possibles figures de la frontière. Alors, les figures de la frontière ne sont pas des idéal types, ne sont pas des typologies, ce ne sont pas des... c'est inspiré par des vraies expériences, des vraies personnes, mais j'essaye d'en tirer un petit peu des concepts, si vous voulez, des concepts des concepts frontaliers ou des concepts de la frontière, en tout cas des concepts qui naissent de l'observation de situations de frontière. Alors je suis arrivé à trois ou quatre figures comme ça, qui sont celles de l'errant, du métèque, du paria. Et finalement, c'est la figure du tiers instruit qui recoupe un petit peu toutes les autres. Mais il pourrait y en avoir d'autres. Et j'ai eu quelquefois déjà l'occasion de présenter l'ouvrage et d'en parler. Et il me semble qu'il est de bon exercice, il est de bonne méthodologie de se dire que cet exercice est à répéter autant de fois qu'on veut. C'est juste une méthode. Observons une situation, voyons en quoi cette situation est une situation de frontière qui met à l'épreuve l'altérité des uns et des autres, et essayons de voir quelle figure d'étranger finalement apparaît dans cette situation. Alors la figure de l'errant, elle a occupé pas mal de mes recherches ces toutes dernières années, et puis elle est revenue dans l'actualité, et elle me fait penser, si je dois dire à quelle situation je pense, à la mer, au désert ou à la route. C'est l'errance, ou c'est la figure du vagabond, éventuellement peut-être un dérivé de la figure du nomade, encore que je ne suis pas sûr que ça soit exactement ça, mais voilà. Et le désert, c'est le désert par exemple, bien sûr, le Sahara, où les gens traversent le désert de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Nord, vers la Libye en particulier, ou vers l'Algérie. Et on peut dire dans ce cas-là que le désert est une situation, est une frontière. Le désert est une frontière. C'est la mer et la mer Méditerranée, où on peut dire que toute la mer Méditerranée est devenue une frontière. Alors, au point où maintenant, bien évidemment, on peut parler de guerre à la frontière, puisque il y a... sur les 16 à 20 000 morts de migrants depuis les 20 dernières années, la moitié peut-être sont morts, sont dans la mer, quoi, sont morts naufragés en Méditerranée. Et la mobilisation d'une institution européenne comme Frontex, donc Frontex, c'est-à-dire l'organisation européenne du contrôle des frontières, hein, et non pas du sauvetage des frontières, c'est l'organisation européenne de contrôle des frontières, est une affaire qui marche très très bien, qui a énormément de budget, dont le budget a augmenté régulièrement pendant 5 ans, entre sa création en 2005 et 2010, a un petit peu diminué l'an dernier, et puis là, bien sûr, va remonter à la suite de ce qui s'est passé en Méditerranée, et où la Commission européenne n'a pas trouvé d'autre réponse que de renforcer encore les moyens de répression contre la migration, qui, comme on le sait, n'aboutit pas à diminuer la migration, mais à forcer à emprunter de nouvelles routes, des nouvelles routes plus dangereuses, qui reposent sur des passeurs et des personnes qui profitent, disons, de l'économie de la prohibition que crée ce mur de Frontex, et donc qui rendent la mobilité encore plus dangereuse. Et on peut aussi évoquer la route. Alors, c'était dans les toutes dernières enquêtes que j'ai faites sur les migrants qui se trouvent autour de la Méditerranée, enfin, dans toute cette zone-là. J'avais eu l'occasion, avec la photographe Sarah Presciani, de faire une enquête entre la Grèce, l'Italie et le nord de la France, Calais et Paris, sur la circulation principalement des migrants, mais aussi des Soudanais, Érythréens, Éthiopiens, qui passaient par ces villes. Voilà. Donc, on s'est retrouvé à Patras, qui est une ville de Grèce et un port, que les migrants afghans, principalement, rejoignent pour essayer ensuite de s'introduire dans des camions qui vont aller dans les navires qui vont aller jusqu'en Italie. Et là, de là, ils essayent ensuite de continuer en Europe. Mais il se trouve que c'est un circuit qui lui aussi est très dangereux, très risqué. Et donc, très souvent, donc les migrants n'arrivent pas à passer, ils sont bloqués à la frontière. Voilà. Donc ce phénomène d'être bloqué à la frontière est assez régulier. Vous avez des lieux comme ça, où, que ce soit à Patras, bien sûr à Calais, comme c'est bien connu, mais aussi à Melilla, hein, et Ceuta, au nord de l'Afrique, qui sont des enclaves espagnoles au nord de l'Afrique. Vous avez des lieux où se font des poches comme ça d'attente, hein, de gens qui attendent pour passer la frontière et qui sont dans une errance, alors à tout point de vue, qui sont dans une attente et une errance. Et le propre de cette figure-là, de la frontière, c'est de ne pas très bien savoir finalement où va se poursuivre le chemin. Alors ce qu'on remarque, c'est que c'est une situation qui donne lieu à beaucoup de récits épiques de la part des personnes elles-mêmes, maintenant un peu aussi de la part des écrivains. Je vous renvoie à la troisième femme des trois femmes puissantes de Marie Ndiaye, à la nouvelle Barça de J.M. de Le Clézio, et d'autres encore. Vous avez Samba pour la France, dont le nom de l'auteur m'échappe, vous allez revenir, publié il y a 2 ans, et qui sont des histoires réécrites par des histoires de migration dans l'errance, réécrites maintenant par des écrivains. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui racontent leur histoire qu'on a enregistrée, qu'un ethnologue a enregistrée et qu'il a plus ou moins mis en forme. Ce sont des écrivains qui, dans leur fiction, prennent ces histoires-là pour en faire des romans. Donc ce côté épique de l'errance commence à devenir un sujet de littérature, comme autrefois l'exil a été aussi un sujet de littérature. Édouard Saïd a beaucoup écrit là-dessus. Il s'en était même plein à un moment donné en disant il y en a assez de la littérature de l'exil, ça devient un artifice où on se met en exil pour pouvoir devenir écrivain. Jusqu'à inverser pratiquement la relation de l'exil à l'écriture. Donc là, je trouve qu'il y a cet élément qui est intéressant du point de vue de l'esthétique et donc aussi de la représentation politique de la migration aujourd'hui, de voir venir depuis quelques années, c'est très contemporain, cette nouvelle littérature de l'exil sans sortie, hein, parce que ce ne sont pas des immigrés, ils ne sont pas arrivés quelque part dont on pourrait dire qu'ils sont immigrés. Ils sont émigrés, mais le rapport avec le lieu d'origine est très très difficile, puisque ils ne peuvent pas raconter la belle histoire de leur migration. Et parfois, sur les lieux de départ, on ne sait pas encore ce qu'ils sont devenus. Et donc, on peut dire qu'ils sont des migrants, tout simplement. Des migrants un peu en suspens, comme ça. Donc cette figure-là est importante. Elle a un côté épique. Et ce côté épique se retrouve aussi dans les histoires que les gens se racontent eux-mêmes. Et très régulièrement, on entend parler d'aventure. Et les gens eux-mêmes disent « je suis un aventurier, je suis dans l'aventure ». Et il y a quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces histoires-là, alors même que les personnes sont dans une errance, où ils sont incapables de dire exactement où ils vont se retrouver, qui consiste à devenir sujet de son histoire, comme si on en était l'auteur, en inventant que tout ça est une aventure. Une aventure liée même parfois à des histoires ancestrales de peuples qui est en déplacement, de peuples migrants, etc., etc. C'est pour ça que la figure du nomade la référence à la figure du nomade là est un peu problématique, si vous voulez. Bon, donc beaucoup de gens qui parlent pour eux-mêmes, qui se racontent pour eux-mêmes finalement le récit de l'aventure. Et des écrivains qui racontent aussi maintenant cette histoire-là. et des histoires quoi qui sont dans les limbes, hein, dans le liminaire, d'un liminaire qui dure très longtemps. Je pense aussi à ce roman qui s'appelle Barsac, qui raconte le passage, hein, de l'Afrique du Nord à l'Espagne, et où il est expliqué que le mot Barsac en arabe signifie justement l'état intermédiaire entre la vie et la mort, hein, donc les limbes, quelque chose comme ça. Alors, une deuxième figure qui me semble très très fréquente aujourd'hui, qui se développe particulièrement au Moyen-Orient, mais aussi en France, c'est la figure qui correspond à la figure très ancienne du métèque. La société athénienne avait besoin de ces métèques, c'est-à-dire des gens qui ont le droit de rester dans la ville, mais n'ont pas le droit de cité, n'ont pas de droit politique, n'ont pas le droit de posséder des biens, n'ont pas le droit de s'établir durablement comme propriétaire ou comme citoyen. Par contre, ils ont le droit de rester là pour travailler. Et donc, cette forme-là d'avoir le droit simplement de rester là pour travailler, ben, on la connaît d'une certaine façon avec le nombre considérable de sans-papiers qui est régulièrement reproduit en France, entre 350 et 400 000 sans-papiers, quelles que soient les expulsions. Il y a toujours ce volant de main-d'œuvre fragile, de main-d'œuvre sans droit, qui est toujours là, accessible pour les travaux domestiques, de construction civile, etc., de bâtiments, etc. Ce qu'on trouve aussi dans d'autres pays, c'est un peu la formule que maintenant on connaît de plus en plus sous le nom de la formule du parrainage, hein, au Koweït ou au Qatar, sur quoi j'ai enquêté à Beyrouth, au Liban, où en particulier des femmes migrantes venant de Sri Lanka ou du Bangladesh ou des Philippines ont un vague contrat, par lequel elles ont un billet d'avion, elles sont endettées, donc on leur crée une dette avant même le départ, elles sont endettées parce qu'on leur dit vous devrez le billet d'avion, et elles doivent toujours le billet d'avion puisque... elles sont en principe logées chez leur employeur, qui ne les paye pas, mais qui par contre leur fait payer le logement qui est en général sur la terrasse de l'appartement. Et donc au bout d'un an ou deux ans, ces personnes n'ont pas d'autre solution que de s'enfuir. Hein. Et là-dessus, beaucoup de choses ont été écrites, soit par des chercheurs, soit par des associations qui parlent d'esclavage, par exemple, etc. Je pense que on n'est pas dans une relation qui est celle de l'esclavage, mais on est dans une relation qui est extrêmement violente. Hein. Et donc, au bout d'un an ou deux ans, les personnes qui sont là n'ont pas d'autre choix que de partir, et donc de se retrouver dans l'illégalité complète, puisque il était prévu dès le départ que les patrons chez lesquels elles allaient se retrouver gardaient leur passeport. Et donc, elles repartent et elles vivent clandestinement dans la ville de Beyrouth, moyennant quoi elles peuvent avoir des contrats de travail où elles reçoivent effectivement un peu d'argent, alors elles reçoivent un salaire, alors que dans la formule dite du parrainage, elles ne recevaient pas de salaire. Alors là, dans ce cas-là, on peut dire que toute la ville est la frontière pour ces personnes, puisque elles y sont, mais elles n'y sont pas entièrement intégrées. Mais c'est un lieu où elles font aussi des rencontres. Et il m'est arrivé, dans les premières parties des enquêtes que j'ai faites auprès des migrants à Beyrouth, au Liban, de rencontrer souvent des couples, par exemple, de femmes sri-lankaises et d'hommes soudanais, par exemple. Ce genre d'union, si vous voulez, assez improbable en dehors du contexte de Beyrouth, de gens qui se retrouvent dans quelques lieux de sociabilité. Là, en l'occurrence, c'est autour de la communauté formée par les étrangers de l'Église catholique, hein, qui vont à la messe des étrangers le dimanche matin, où on trouve donc des femmes philippines, des hommes du Sud-Soudan, et des femmes bangladeshi ou sri-lankaise. Donc toute la ville est une frontière, c'est-à-dire un lieu plein d'incertitudes, un lieu où il y a beaucoup d'inconnus, des endroits où on peut aller où on, et d'autres où on ne peut pas aller, et où des relations sont tissées quand même, des nouvelles formes sociales apparaissent, des nouvelles familles sont formées, etc. Une troisième figure, évidemment, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est le camp comme frontière, et dans le camp, c'est la figure du paria, c'est-à-dire, là encore, une figure qui n'est pas très nouvelle, une figure qui est très ancienne dans l'histoire des étrangers, finalement, une figure qui est très ancienne, qui est simplement la personne qu'on met à l'écart et à propos de qui on ne connaît pas grand-chose, et dont on ne souhaite pas connaître grand-chose. En tout cas, on charge, en l'occurrence, une administration, ça peut être une organisation humanitaire, ça peut être une administration internationale ou une administration nationale, de gérer ces populations-là à l'écart. Alors là aussi, c'est le camp comme frontière, c'est à prendre aussi dans les deux sens du terme, puisque l'expérience des camps de réfugiés montre que, bien évidemment, il y a des parcours et des destins tout à fait dramatiques dans ces contextes-là, mais ce sont aussi des lieux où, tout en étant paria, les gens sont maintenus en vie, bon, par rapport à la différence d'autres contextes dans lesquels ils pourraient mourir. Et donc là, ils sont maintenus en vie, et où, surtout, une expérience tout à fait nouvelle de rencontre avec d'autres étrangers se fait, que ce soit avec les Européens ou les Occidentaux des organisations internationales, que ce soit avec les gens qui viennent d'autres pays, d'autres groupes ethniques, d'autres langages. Et donc l'apprentissage de l'altérité se fait aussi dans ces contextes-là. On peut dire, quoi, d'une certaine façon, que les camps de réfugiés, les camps de déplacés, les campements, ce sont à la fois des lieux de confinement, mais aussi ce sont des petits carrefours du monde. Ce sont des carrefours où beaucoup de gens se retrouvent et qui ne se seraient pas retrouvés là autrement. Donc il y a un effet cosmopolite, si vous voulez, dans cette situation, même si elle n'était pas prévue au départ. Alors on pourrait continuer la description de situation, la description de ces figures de la frontière. Il me semblait, en voyant un peu la situation entre le Mexique et les États-Unis, qu'on pourrait réfléchir beaucoup sur la figure du passeur, en dehors de toutes ces dimensions moralisatrices, accusatrices qu'on donne à cette figure là dans les médias, etc. On pourrait voir cette figure là très tranquillement comme une des figures essentielles de la frontière. Et on sait aux États-Unis par exemple qu'il y a des passeurs qui ont été eux-mêmes bloqués à la frontière du côté mexicain, et qui sont devenus grands connaisseurs de la frontière, finalement. Ils sont devenus grands connaisseurs, alors bien sûr, du mur qu'on ne peut pas passer, ou éventuellement des endroits où il y a des trous qui sont faits, où on peut passer, mais aussi de la partie de la montagne, qui est connue pour être la plus dangereuse, ou aussi la partie du désert, qui est très, très dangereuse, et où certains passeurs peuvent être des très bons conseillers pour les gens qui s'appuient sur eux. Alors je sais bien que c'est un sujet très, très, très sensible, mais avant qu'une complète économie de la prohibition s'installe et fasse de ces personnes-là qui font le passage de la frontière des véritables professionnels de réseaux de passage, et pas tellement des réseaux de passeurs, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias sur les incroyables mafias ou réseaux de passeurs. Non, ce ne sont pas, ça n'a pas la forme du réseau, ça a la forme du poste. C'est le poste frontière. C'est une personne est là et elle devient une très bonne connaisseuse de son secteur là, de cette partie de la frontière. Et c'est plus donc c'est plus des figures comme ça de passeurs que des réseaux, des mafias internationales, etc. Donc d'autres figures comme ça pourraient être déclinées qui à chaque fois s'appuieraient sur la description d'une situation particulière. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'on trouve dans toutes ces figures-là, quelque chose qu'un sociologue australien juif et exilé aux États-Unis en 1940, où il s'est installé et il a vécu tout le reste de sa vie, a très bien décrit. Donc c'est Alfred Schultz qui a écrit un petit livre qui s'appelle « L'étranger ». Et il décrit le labyrinthe culturel de l'étranger, le labyrinthe étant hostile, le labyrinthe dans lequel il arrive, le labyrinthe qui est le milieu dans lequel arrive l'étranger, lui est hostile, ça n'est pas accueillant, ça lui complique la vie, et donc l'étranger qui arrive quelque part doit passer du temps à confronter les codes culturels qu'il a appris avec ceux qu'il découvre, à les mettre en relation, donc à transformer ces codes pour, dit-il, arriver à ce que quelque chose soit absolument évident, alors que plus rien, tout d'un coup, quand il arrive quelque part, plus rien de ce qu'il voit dans les manières de faire, les manières de s'habiller, de manger, de parler, de se comporter, plus rien n'a la simplicité de l'évidence, et donc tout est un labyrinthe. Et donc ce labyrinthe, bien sûr, tous les étrangers qui arrivent, qui sont sur le point d'arriver quelque part, qui sont à la frontière, ils en font la découverte. Pas autant, ou en tout cas, il n'est pas sûr qu'ils sortent du labyrinthe, comme l'explique Schultz, pour l'étranger qui est finalement intégré et qui est arrivé quelque part. Ou celui de Abdelmalek Sayad, par exemple, qui a eu beau parler de la double absence de l'émigré, de l'immigré qui est aussi un émigré, il n'empêche qu'à l'époque où il écrit, où il parle des migrants, Abdelmalek Sayad, qui était donc un chercheur qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu, qui a écrit sur l'Algérie avec Pierre Bourdieu, qui ensuite a beaucoup écrit sur l'émigration d'Algériens en France, à cette époque-là, même si... les immigrés souffraient, comme il l'expliquait, d'une double absence, absente de leur terre et ressentant une absence dans le lieu où ils étaient. Il n'empêche que ça n'est rien par rapport à tout ce qui peut être connu aujourd'hui de suspension finalement et de difficulté d'arriver quelque part.